France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Voilà, bonsoir, bonsoir. Voilà, j'ai déjà consacré deux émissions à Louis-Ferdinand Céline. J'ai déjà défini toute la le paradoxe d'un très grand écrivain, d'un poète et d'un homme qui évidemment s'est comporté dans un délire d'antisémitisme qui en fait un problème dans l'histoire de la littérature. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette phrase de Régis Debray, « J'adore Paul Morand, mais j'aurais jamais déjeuné avec lui ». Et on lui a dit « Et pour Céline ?» Il a répondu « Oui ». Quoique la curiosité m'aura entraîné à accepter un déjeuner. Mais enfin, c'est la dichotomie la plus absolue entre un grand écrivain avec une sensibilité, avec une vision et un comportement raciste et inadmissible. Donc, ayant consacré ces deux émissions à Céline, je vous propose de lire un extrait plus long du voyage, un extrait sur l'Amérique, son arrivée. Je vous redis le contexte rapidement. Céline commence par la place Clichy, il s'engage dans l'armée pendant la guerre de 14-18, globalement c'est vrai, à la fois dans le roman et à la fois dans sa vie. Il est assez héroïque pendant la guerre de 14-18, il a dû exagérer, mais globalement c'est pas impossible. Il arrive après la guerre, il part en Afrique, et là il dénonce le colonialisme, l'horreur des colons. Donc après l'Afrique, il y a l'Amérique. L'Amérique, c'est le moment où d'Afrique, il part en bateau, on va l'immobiliser dans une petite île avant New York, pour que vérifier qu'ils sont pas malades. Ça, je crois que ça lui est arrivé, j'en suis pas sûr. Et puis après, dans un bateau, il va découvrir l'Amérique, il va découvrir New York. Ça s'appelle l'arrivée à New York. C'est un des extraits du voyage qui précède l'arrivée en banlieue parisienne où il s'installe comme le docteur des pauvres. Et donc, le chapitre commence par « Pour une surprise, s'en fut une. » À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non ? Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. On en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur, mais on en pouvait rigoler, nous, du spectacle, qu'à partir du coup, à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là, à travers une grosse brume, grise et rose, et rapide et piquante, à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille. Les rues de la ville, où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent. Pour un miteux, il est jamais bien commode de débarquer nulle part. Mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. C'est tous des anarchistes qui disent. Ils ne veulent recevoir chez eux, en somme, que les curieux qui leur apportent du pognon. Parce que tous les argents d'Europe, c'est des fils à dollars. J'aurais peut-être pu essayer, comme d'autres l'avaient déjà réussi, de traverser le port à la nage et une fois au quai de me mettre à crier « Vive dollar, vive dollar !» C'est un truc. Il y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon-là et qui après ça ont fait des fortunes. C'est pas sûr. Ça se raconte seulement. Il en arrive dans les rêves des bien pires encore. Moi, J'avais une autre combinaison en tête en même temps que la fièvre. À bord de la galère, ayant appris à bien compter les puces, pas seulement à les attraper, mais à en faire des additions et des soustractions, en somme des statistiques. Métier délicat qui n'a l'air de rien, mais qui constitue bel et bien une technique. Je voulais m'en servir. Les Américains, on peut en dire ce qu'on voudra, mais en fait de technique, c'est des connaisseurs. Ils aimeraient ma manière de compter les puces jusqu'à la folie. J'en étais certain d'avance. Ça ne devait pas rater, selon moi. Alors là, il va expliquer qu'on va les foutre en quarantaine et pendant quelques semaines pour vérifier qu'ils sont pas malades et tout ça, il va s'échapper. Et puis un matin ou un soir, plutôt un matin, il va arriver tout seul devant New York et il va dire... En levant le nez vers toute cette muraille, c'est-à-dire tous les buildings de New York, j'éprouvais une espèce de vertige à l'envers, à cause des fenêtres trop nombreuses, vraiment, et si pareil, partout que c'en était écœurant. Précairement vêtu, je me hâtais, transi, vers la fente la plus sombre qu'on puisse repérer dans cette façade géante, espérant que les passants ne me verraient qu'à peine au milieu d'eux, honte superflue, je n'avais rien à craindre. Dans la rue que j'avais choisie, vraiment la plus mince de toutes, pas plus épaisse qu'un gros ruisseau de chez nous, et bien crasseuse au fond, bien humide, remplie de ténèbres. Il encheminait déjà tellement d'autres de gens. Ça m'a toujours bouleversé que cette manière de parler des rues de manière impersonnelle et de parler des mouvements de foule comme ça. Il encheminait déjà tellement d'autres de gens, des petits et des gros qui m'emmenèrent avec eux comme une ombre. Ils remontaient comme moi dans la ville, au boulot sans doute, le nez en bas. C'étaient les pauvres de partout. Hein, c'est merveilleux, tous ces gens qui vont partir travailler comme ça. Et lui est bêté, il arrive d'Afrique et il va rentrer dans New York. Hein. Il remontait comme moi dans la ville, au boulot sans doute, le nez en bas. C'était les pauvres de partout. Comme si j'avais su où j'allais, j'ai eu l'air de choisir encore et j'ai changé de route. J'ai pris sur ma droite une autre rue, mieux éclairée. Broadway, qu'elle s'appelait. Le nom, je l'ai lu sur une plaque. Bien au-dessus des derniers étages en haut restait du jour, avec des mouettes et des morceaux du ciel. Nous, on avançait dans la lueur d'en bas, malade comme celle de la forêt, et si grise que la rue en était pleine, comme un gros mélange de coton sale. C'était comme une plaie triste, la rue qui n'en finissait plus, avec nous au fond, nous autres, d'un bord à l'autre, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde. Les voitures ne passaient pas, rien que des gens et des gens encore. C'était le quartier précieux qu'on m'a expliqué plus tard. Le quartier pour l'or. Manhattan, on y entre qu'à pied, comme à l'église. C'est le beau cœur en banque du monde d'aujourd'hui. Il y en a pourtant qui crachent par terre en passant. Faut être osé, c'est un quartier qu'on est rempli d'or. Un vrai miracle. Et même qu'on peut l'entendre, le miracle, à travers les portes, avec son bruit de dollars qu'on froisse. Lui, toujours trop léger, le dollar, hein. Un vrai Saint-Esprit, plus précieux que du sang. J'ai eu tout de même le temps d'aller les voir, et même je suis entré pour leur parler à ses employés qui gardaient les espèces. Ils sont tristes et mal payés. Quand les fidèles entrent dans leur banque, faut pas croire qu'ils peuvent se servir comme ça selon leurs caprices. Pas du tout. Ils parlent à dollar en lui murmurant des choses, à travers un petit grillage. Ils se confessent, quoi. Pas beaucoup de bruit. Des lampes bien douces, un tout minuscule guichet entre de hautes arches, c'est tout. Ils ne l'avalent pas, l'hostie, ils se la mettent sur le cœur. Je ne pouvais pas rester longtemps à les admirer, il fallait bien suivre les gens de la rue, entre les parois d'ombre lisse. Tout d'un coup, ça s'est élargi, notre rue, comme une crevasse qui finirait dans un étang de lumière. On s'est trouvé là devant une grande flaque de jour glauque, coincé entre des monstres et des monstres de maisons. Au beau milieu de cette clairière un pavillon avec un petit air champêtre et bordé de pelouses malheureuses. Je demandais à plusieurs voisins de la foule ce que c'était que ce bâtiment-là qu'on voyait, mais la plupart finirent de ne pas m'entendre, ils n'avaient pas de temps à perdre. Un petit jeune passant tout près voulut bien tout de même m'avertir que c'était la mairie. « Vieux monument de l'époque coloniale, ajouta-t-il. Tout ce qu'il y avait d'historique qu'on avait laissé là, c'est merveilleux qu'on avait laissé là. » Le pourtour de cette oasis tournait au square avec des bancs et même qu'on y était assez bien pour la regarder, la mairie. Assis, il n'y avait presque rien à voir d'autre dans le moment où j'arrivais. Je pense qu'en 1929, personne n'employait la répétition du même mot. Marguerite Duras a remarquablement bien fait après, mais c'est très rare, hein. On était assez bien pour la regarder, la mairie, assis. Il n'y avait presque rien à voir d'autre dans le moment où j'arrivais. J'attendis une bonne heure à la même place. Et puis de cette pénombre, de cette foule en route, discontinue, morne, surgit sur les midis, indéniable, une brusque avalanche de femmes absolument belles. Quelle découverte, quelle Amérique, quel ravissement, souvenir de Lola, son exemple ne m'avait pas trompé, c'était vrai. Je touchais au vif de mon pèlerinage, et si je n'avais point souffert en même temps des continuels rappels de mon appétit, je me serais cru parvenu à l'un de ces moments de surnaturelle révélation esthétique. Les beautés que je découvrais incessantes m'eussent avec un peu de confiance et de confort ravi à ma condition trivialement humaine. Hein. Il me manquait qu'un sandwich, en somme, pour me croire en plein miracle, mais comme il me manquait le sandwich. Quelle gracieuse souplesse, cependant. Quelle délicatesse incroyable. Quelle trouvaille d'harmonie, périlleuse nuance, réussite de tous les dangers, de toutes les promesses possibles, de la figure et du corps parmi tant de blondes, ces brunes et ces tissiennes, et qu'il n'y en avait plus qu'il en venait encore. C'est peut-être, pensais-je, la Grèce qui recommence. J'arrive au bon moment. Elles me parurent d'autant mieux divines, ces apparitions, qu'elles ne semblaient point du tout s'apercevoir que j'existais, moi, là, à côté, sur ce banc, tout gâteux, baveux d'admiration érotico-mystique, de quinine et aussi de faim, faut l'avouer. S'il était possible de sortir de sa peau, j'en serais sorti juste à ce moment-là, une fois pour toutes. Rien ne m'y retenait plus, elle pouvait m'emmener, me sublimer, ces invraisemblables midinettes. Elle n'avait qu'un geste à faire, un mot à dire, et je passais à l'instant même et tout entier dans le monde du rêve. Mais sans doute avait-elle d'autres missions. Une heure, deux heures passèrent ainsi dans la stupéfaction. J'espérais plus rien. « Y a les boyaux, vous avez vu, à la campagne, chez nous, jouer le tour aux cheminots. » On bourre un vieux porte-monnaie avec les boyaux pourris d'un poulet. Eh ben, un homme, moi je vous le dis, c'est tout comme, en plus gros et mobile et vorace. Et puis dedans un rêve. On voit que c'est un lecteur de Shakespeare, hein. Et puis dedans un rêve. Fallait songer au sérieux, ne pas entamer tout de suite ma petite réserve de monnaie. J'en avais pas beaucoup de la monnaie, j'osais même pas la compter. J'aurais pas pu, d'ailleurs je voyais double. Je les sentais seulement minces, les billets craintifs à travers l'étoffe tout près, dans ma poche, avec mes statistiques à la manque. Des hommes aussi passaient par là, des jeunes surtout, avec des têtes comme en bois rose. Des regards secs et monotones, des mâchoires qu'on n'arrivait pas à trouver ordinaires, si larges, si grossières. Enfin, c'est ainsi sans doute que leurs femmes les préfèrent, les mâchoires. Les sexes semblaient aller chacun de leur côté dans la rue. Elles, les femmes, ne regardaient guère que les devantures des magasins, tout accaparées par l'attrait des sacs, des écharpes. Des petites choses de soie exposées très peu à la fois dans chaque vitrine, mais de façon précise, catégorique. On trouvait pas beaucoup de vieux dans cette foule. C'est marrant cette observation de Céline en 1929. Il n'y a pas de vieux dans les rues de New York. On ne trouvait pas beaucoup de vieux dans cette foule. Peu de couples non plus. Personne n'avait l'air de trouver bizarre que je reste là, moi, seul, pendant des heures, en station, sur ce banc, à regarder tout le monde passer. Toutefois, à un moment donné, le policeman du milieu de la chaussée, posé comme un encrier, se mit à me suspecter d'avoir des drôles de projets. C'était visible, hein. Où qu'on se trouve, dès qu'on attire sur soi l'attention des autorités, le mieux est de disparaître, et en vitesse, pas d'explication. Au gouffre, que je me dis, et là, il va descendre dans ces chiottes hallucinantes. C'est un passage rabelaisien où on entend les hurlements, mais ça, je l'ai passé, et on va le retrouver quand il remonte. Mais en attendant, on va écouter Louis Armstrong, Saint Louis Blues.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Là, il remonte, il a vu des choses horribles, et là, il y a une phrase de génie qui arrive. Alors, il va dire « Je remontais au jour par les mêmes marches pour me reposer sur le même banc. » Débauche soudaine de digestion et de vulgarité, grande phrase de Céline, découverte du communisme joyeux du caca. Je laissais chacun de leur côté les aspects si déconcertants de la même aventure. J'avais pas la force de les analyser ni d'en effectuer la synthèse. C'est dormir que je désirais impérieusement. Délicieuse et rare frénésie. J'ai donc repris la file des passants qui s'engageaient dans une des rues aboutissantes et nous avançâmes par saccades à cause des boutiques dont chaque étalage fragmentait la foule. La porte d'un hôtel s'ouvrait là, créant un grand remous. Des gens giclaient sur le trottoir par la vaste porte à tambour. Je fus à dans le sens inverse, en plein grand vestibule à l'intérieur. Et là, ils découvrent encore un hôtel avec des femmes incroyables, plein de femmes qui sont dans cet hôtel. Il a la fièvre, il a pas bouffé. Peut-être qu'il baratine un peu, mais il y a un peu de vrai. Enfin bon. Et puis il voit toutes ces femmes. Bon, évidemment, c'était pas à moi qu'elles songeaient. Aussi passais-je à mon tour devant cette longue tentation palpable tout à fait furtivement. Comme elles étaient au moins une centaine, ces prestigieuses retroussées, disposées sur une seule ligne de fauteuil, j'arrivais au bureau des entrées, si rêveur, ayant absorbé une ration de beauté tellement trop forte pour mon tempérament que j'en chancelais. Au pupitre, un commis gommé m'offrit violemment une chambre. Je me décidai pour la plus petite de l'hôtel. Je ne devais guère posséder à ce moment-là qu'une cinquantaine de dollars. Presque plus d'idées, pas de confiance du tout. J'espérais que ce serait réellement la plus petite chambre d'Amérique qui m'offrirait le commis. Car son hôtel, le Love Calvin, était annoncé sur les affiches comme le mieux achalandé parmi les plus somptueux garnis du continent. au-dessus de moi, quel infini de locaux meublés. Quels abîmes, quels périls, le supplice esthétique du pauvre est donc interminable, encore plus tenace que sa fin, mais point le temps d'y succomber. Preste, les gens au bureau m'avaient déjà remis une clé, pesante, à pleine main, j'osais plus bouger. Un garçonnet déluré, vêtu en sorte de très jeune général de brigade, surgit de l'ombre devant mes yeux, impératif commandant. L'employé lisse du bureau frappa trois coups sur son timbre métallique et mon garçonnet se mit à siffler. On m'expédiait, c'était le départ. Nous filâmes, d'abord par un couloir à belle allure, nous allions noirs et décisifs comme un métro. Lui conduisait l'enfant, encore un coin, un détour et puis un autre. Ça ne traînait pas, nous incurvâmes un peu notre sillage. Ça passe, c'est l'ascenseur. Coup de pompe, nous y voilà. Non, un couloir encore, plus sombre encore. De l'ébène murale, il me semble partout sur les parois. Je n'ai pas le temps d'examiner, le petit siffle. Il emporte ma frêle valise, je n'ose rien lui demander. C'est allé qu'il faut, je m'en rends bien compte. Dans les ténèbres, ça et là, sur notre passage, une ampoule rouge ouverte sème un commandement. De longs traits d'or marquent les portes. Nous avions franchi depuis longtemps les numéros 1800 et puis les 3000. Et nous allions cependant toujours emportés par notre même invisible destin. Il suivait l'innominé dans l'ombre, le petit chasseur galonné, comme son propre instinct. Rien ne semblait dans cette tente le trouver au dépourvu. Dans l'effort de m'accélérer, j'avais perdu au long de ces couloirs uniformes le peu d'aplomb qui me restait en m'échappant de la quarantaine. Je m'effilochais comme j'avais déjà vu s'effilocher ma case au vent d'Afrique parmi les déluges d'eau tiède. J'étais aux prises ici pour ma part avec un torrent de sensations inconnues. Il y a un moment entre deux genres d'humanité où l'on en arrive à se débattre dans le vide. Tout à coup, le garçonnet, sans prévenir, pivota. Nous venions d'arriver. Je me cognais contre une porte, c'était ma chambre. Une grande boîte aux parois d'ébène. Rien que sur la table, un peu de lumière saignait, une lampe craintive et verdâtre. Le directeur de l'hôtel Lauf Calving avisait le voyageur que son amitié lui était acquise. Et qu'il prendrait, lui, directeur, le souci personnel de maintenir en gaieté le voyageur pendant toute la durée de son séjour à New York.
Fabrice Lucchini lit Céline, Voyage au bout de la nuit.
Ce qui est incroyable, c'est que c'est 1929. Il a un sens de la drôlerie tragique, de la tragédie, de la modernité, de ces phrases monstrueusement polies. Et c'est en 1929, c'est incroyable. La lecture de cette annonce posée bien en évidence dut s'ajouter encore si possible à mon marasme. Une fois seul, ce fut bien pire. Toute cette Amérique venait me tracasser, me poser d'énormes questions et me relancer de sales pressentiments, là même, dans cette chambre. Sur le lit anxieux, je tentais de me familiariser avec la pénombre de cet enclos pour commencer. D'un grondement périodique, les murailles tremblaient du côté de ma fenêtre. Passage du métro aérien, il bondissait en face entre deux rues comme un obus rempli de viande tremblotante et hachée, saccadait à travers la ville lunatique de quartier en quartier. On le voyait là-bas aller se faire trembler la carcasse juste au-dessus d'un torrent de membrures dont l'écho grondait encore bien loin derrière lui d'une muraille à l'autre quand il l'avait délivré à 100 à l'heure. L'heure du dîner survint pendant cette prostration et puis celle du coucher aussi. C'est surtout le métro furieux qui m'avait ahuri. De l'autre côté de ce puits de courette, la paroi s'alluma et là c'est Hitchcock. Là c'est écrit en 29, mais il va prévoir fenêtre sur cour d'Hitchcock. De l'autre côté de ce puits de courette, la paroi s'alluma par une, puis par deux chambres, puis des dizaines. Dans certaines d'entre elles, je pouvais apercevoir ce qui se passait. C'était des ménages qui se couchaient. Ils semblaient aussi déchus que les gens de chez nous, les Américains, après les heures verticales. Les femmes avaient les cuisses très pleines et très pâles, celles que j'ai pu bien voir tout au moins. La plupart des hommes se rasaient tout en fumant un cigare avant de se coucher. Au lit, ils enlevaient leurs lunettes d'abord et leur râtelier ensuite dans un verre et plaçaient le tout en évidence. Ils n'avaient pas l'air de se parler entre eux, entre sexes, tout à fait comme dans la rue. On aurait dit des grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s'ennuyer. Je n'ai aperçu en tout que deux couples à se faire à la lumière les choses que j'attendais. Et pas violemment du tout. Moi, j'aime beaucoup. Et pas violemment du tout. Les autres femmes, elles, mangeaient des bonbons au lit en attendant que le mari ait achevé sa toilette. T'as vu le paysage ? Mais démentiel, le mec est complètement déprimé. Il est dans sa vieille chambre d'hôtel, il y a le métro qui passe devant sa vieille fenêtre. Et puis tout d'un coup, il allume, il voit la paroi, il voit la cour, comme Hitchcock qui commence à mater partout. Et il voit les mecs qui se rasent et avec les cigares, c'est effrayant. Hein, il n'y avait pas marqué interdit de fumer à cette époque-là, hein, 1929. Et puis après, il voit les femmes, quoi. Et puis tout le monde attend, elle bouffe des bonbons. Et cette phrase merveilleuse, je n'ai aperçu en tout que deux couples à faire les choses que j'attends. Et pas violemment du tout. Les femmes mangeaient des bonbons au lit en attendant que le mari ait achevé sa toilette. Et puis tout le monde a éteint. C'est triste, hein, des gens qui se couchent. On voit bien qu'ils se foutent que les choses aillent comme elles veulent. On voit bien qu'ils cherchent pas à comprendre, eux, le pourquoi qu'on est là. Ça leur est bien égal. Ils dorment n'importe comment. C'est dégonflé. Des huîtres. Des pas susceptibles, américains ou non, ils ont toujours la conscience tranquille. J'en avais trop vu, moi, des choses pas claires pour être content. J'en savais trop et j'en savais pas assez. Faut sortir, que je me dis, sortir encore. Peut-être que tu le rencontreras, Robinson. C'était une idée idiote, évidemment, mais que je me donnais pour avoir un prétexte à sortir à nouveau. D'autant plus que j'avais beau me retourner encore sur le petit plumas, je ne pouvais accrocher le plus petit bout de sommeil. Même à se masturber, dans ces cas-là, on est ni réconfort, ni distraction. Alors c'est le vrai désespoir. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille et depuis déjà tellement trop longtemps. Où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces 1000 projets qui n'aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de l'accablante nécessité, tentatives qui toujours avortent et toutes pour aller se convaincre une fois de plus que le destin est insurmontable, qu'il faut retomber au bas de la muraille, chaque soir sous l'angoisse de ce lendemain, toujours plus précaire. Plus sordide, c'est l'âge aussi qui vient, peut-être le traître, et nous menace du pire. Et là, c'est une phrase de génie. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà. Le voilà est incroyable. On n'a plus beaucoup de musique en soi. Je répète que Julien Gracq, qui n'aimait pas du tout Céline, a été jaloux de cette formule. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà, c'est la définition de la dépression. Hein. C'est presque philosophique. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, quand on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. J'ai jamais pu me tuer, moi. Le mieux était donc de sortir dans la rue. Ce petit suicide, chacun possède ses petits dons, sa méthode pour conquérir le sommeil ébouffé. Il fallait bien que j'arrive à dormir pour retrouver assez de force pour gagner ma croûte le lendemain, retrouver de l'entrain jusque ce qu'il fallait pour trouver un boulot demain et franchir tout de suite en attendant l'inconnu du sommeil. Il faut pas croire que c'est facile de s'endormir une fois qu'on s'est mis à douter de tout, à cause surtout de tant de peurs qu'on vous a faites. Je m'habillais et tant bien que mal parvins à l'ascenseur, mais un peu gaga. Encore me fallut-il passer dans le vestibule devant d'autres rangs, d'autres ravissantes énigmes. Des déesses, en somme, des déesses racoleuses. On aurait pu essayer de se comprendre, mais j'avais peur de me faire arrêter. Complications, presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison. Et la rue me reprit. Ah, ça c'est prodigieux comme incarnation du mouvement. Et la rue me reprit. On voit que c'est un pauvre mec à... Et Agar, et la rue me reprit. C'est les événements extérieurs qui l'entraînent. C'est une incarnation absolue de la dépersonnalisation dans une ville. Et la rue me reprit. Et là, pour moi, c'est prodigieux. C'était plus la même foule que tout à l'heure. Celle-ci manifestait un peu plus d'audace tout en moutonnant au long des trottoirs, comme si elle était parvenue, cette foule, dans un pays moins aride, celui de la distraction, le pays du soir. Ils avançaient les gens vers les lumières suspendues dans la nuit au loin, serpents agités et multicolores. De toutes les rues d'alentour, ils affluaient. Ça faisait bien des dollars, pensais-je, une foule comme ça, rien qu'en mouchoir, par exemple, ou en bas de soie, et même rien qu'en cigarette. Et dire que soi-même, on peut se promener au milieu de tout cet argent, ça vous en donne pas un seul sou en plus, même pour aller manger. C'est désespérant quand on y pense, combien s'est défendu les hommes les uns contre les autres, comme autant de maisons. Moi aussi, j'ai été me traîner vers les lumières. Ça, c'est extraordinaire. Moi aussi, j'ai été me traîner vers les lumières. Un cinéma, puis un autre à côté, puis encore un autre. Et tout au long de la rue, comme ça, nous perdions de gros morceaux de foule devant chacun d'eux. J'en ai choisi un, moi, de cinéma où il y avait des femmes sur les photos en combinaison. Une merveille, là, il décrit les femmes. Bon, c'est une autre époque. Et il rentre dans le cinéma. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud. De volumineux orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique. Mais alors, qui serait chauffé. Des orgues comme des cuisses. La phrase est géniale. On plonge en plein dans le pardon tiède. On aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde, peut-être, venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soit presque déjà, et là ça va, la définition du cinéma est prodigieuse. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'engaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors. Sortie du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Ben, il faut pas être fier. Hein. On emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliable a cru bon de venir rompre le silence de l'écran par une chanson où il était question de sa solitude. On en aurait pleuré avec elle. C'est ça qui est bon. Quel entrain ça vous donne. J'en avais ensuite, je le sentais déjà, pour au moins 2 journées de plein courage dans la viande. J'attendis même point qu'on ait rallumé dans la salle. J'étais prêt à toutes les résolutions du sommeil. Maintenant que j'avais absorbé un peu de cet admirable délire d'âme, de retour à l'hôtel, malgré que je l'eusse salué, le portier négligea de me souhaiter le bonsoir, comme ceux de chez nous. Mais moi, je m'en foutais à présent de son mépris au portier. Une forte vie intérieure se suffit à elle-même et ferait fondre 20 années de banquise. C'est ainsi, dans ma chambre, à peine avais-je fermé les yeux, que la blonde du cinéma venait de me rechanter encore et tout de suite pour moi seul, alors toute sa mélodie de sa détresse. Je l'aidais pour ainsi dire à m'endormir. Et j'y parvins assez bien. J'étais plus tout à fait seul. Il est impossible de dormir seul. C'est fascinant qu'un homme qui puisse ressentir tous ses états. Alors, c'est d'une grande modernité, parce que parler de la masturbation 1929, d'un mec qui s'aille et machin, puis qui va au cinéma, qui revient et qui se tire sur la tige, comme disait Céline, c'est très rare. Mais ce qui est étonnant, c'est que cet homme a pu être dans la vie aussi abjecte et cet écrivain si extraordinaire.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Eh bien voilà, après ce Céline, je remercie pour cette émission Xavier Pestugia à la réalisation, Nicolas Bonnet à la technique, Thierry Dupin, là, mais Dupin, lui, il tutoyait les anges, il voyageait dans le sublime, Dupin, et Emmanuel Garassino pour son aide qui rendrait impossible de faire toutes ces émissions si elle n'était pas là. Et je vous dis à dimanche prochain et bonne soirée.